Morning Edition from NPR News.
Das sieht hin, sein Kinder aus.
France Inter, le 18-20.
Crise sociale, crise sanitaire, crise sécuritaire, crise politique décuplée depuis ce matin à Haïti où le président Jovenel Moïse a donc été assassiné. Comment les choses peuvent-elles s'organiser désormais? Peut-on organiser des élections? Avec qui Haïti peut-elle s'enfoncer encore davantage? On y vient tout de suite. Le bruit du monde est à Gaza où les agriculteurs se désespèrent. Leurs terres sont le plus souvent collées à la barrière avec Israël. Première détruite donc à chaque guerre. Ils recommencent tout à zéro, tout le temps. Et à chaque fois, vous les entendrez. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Mariam El-Kurdi a trouvé des rubis en Birmanie. Une scène incroyable au Parlement de Tunis et des extraterrestres. 18h50, le cinéma en VO est à Cannes avec Corinne Pellissier qui a vu un docu-fiction israélien dans la catégorie Un certain regard. Elle vous en parlera tout de suite. Et puis 18h55, Le monde d'après de Jean-Marc Four. La Hongrie d'Orban est un révélateur de la fracture Est-Ouest en Europe. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Eric Sauret.
Bonsoir,
vous êtes, vous êtes politologue, avocat, enseignant à l'Université Paris 13. Dans un instant, on ira faire un tour en Haïti, retrouver le père Stevenson de la Société des Prêtres de Saint-Jacques à Haïti, qui nous racontera ce qu'il voit en ce moment, ce qui se passe sur place. Éric Sauret, Jovenel Moïse assassiné, êtes-vous tenté de nous dire quand même que dans le chaos que vit Haïti depuis plusieurs mois maintenant, voire plus, cet assassinat n'est pas une grosse surprise?
Ce n'est pas une grosse surprise compte tenu de l'histoire d'Haïti. Ce n'est pas le premier président assassiné. Il faut savoir que l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui est celui qui a créé l'État haïtien, a été assassiné. Et dans le temps, 4-5 autres ont été assassinés. Cinquième, le président Jovenel Moïse. Et avant lui, ça remontait à 1915, juste avant l'occupation américaine. Autrement dit, on est habitué à cela. Néanmoins, c'est une surprise, parce que nous sommes dans une ère démocratique en Haïti.
Autant que possible.
Autant que possible.
J'ai quand même envie de rajouter.
Depuis la chute des Duvaliers, une constitution démocratique a été adoptée et les citoyens haïtiens se battent pour cette démocratie. Et donc, par définition, en démocratie, on ne s'attend pas à ce qu'un président de la République soit tué, surtout dans les conditions...
Alors c'est un commando, c'est très étonnant quand même, hein. Un commando, apparemment des hommes qui parlaient anglais et espagnol. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous dit, cette forme d'assassinat?
Alors, il y a deux éléments importants. Il a été assassiné chez lui, dans sa résidence privée. C'est-à-dire qu'on a une privatisation de la vie publique, une privatisation de la vie politique. Première chose. La deuxième chose, par un commando. Et on nous dit que dans ce commando, visiblement, il y aurait des Colombiens, des Vénézuéliens. Vous savez que depuis un certain temps, on dit qu'Haïti était devenu un État, un narco-État. C'est-à-dire que des hommes qui pratiquent le trafic de stupéfiants, eh bien, sont capables d'aller au cœur du pouvoir, et là même plus loin, dans le cercle privé du président de la République pour commettre un acte de cette nature-là sans qu'on ne sache quel est le vrai mobile, sans qu'on ne sache quels sont aujourd'hui, à cette heure, les vrais bénéficiaires de cet acte horrible.
Alors j'allais vous poser la question, c'était un personnage très particulier, Jovenel Moïse, qui venait des affaires, qui entre en politique, qui entre en 2015 sur un certain espoir, et puis dont on se rend compte finalement qu'il a un mal considérable à quitter le pouvoir, qu'il commence à être extrêmement décrié, on manifeste beaucoup contre lui. Est-ce qu'on se dit qu'il avait pris une espèce de virage, est-ce qu'on dit autocratique? Qu'est-ce qu'on peut dire de Jovenel Moïse?
Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on disait beaucoup de choses. Et on aurait pu dire également que sa mort constitue la mort du tyran. Le seul problème, c'est qu'on n'était pas en face d'un tyran. On était face à un homme qui dirige un pays qui a perdu le sens des valeurs. On était face à un homme qui dirigeait un pays dont les élites ont abandonné, on va dire, les citoyens, ont abandonné les vraies valeurs démocratiques. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Des élites, oui, qui croient dans ce qu'on appelle le banditisme politique. Et Jovenel Moïse, malheureusement, on doit le dire aussi, vient un peu aussi de là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été choisi par Monsieur Michel Martelly, qui chantait qu'il était un bandit légal et qui est quand même devenu président de la République.
C'est son prédécesseur.
C'est son prédécesseur qui l'a choisi. Et c'est là où vous avez raison de parler de ses origines. C'est un homme d'origine paysanne, c'est-à-dire c'est quelqu'un de modeste, d'une certaine humilité.
Il s'était fabriqué
par l'entreprise, site qui était très important. Néanmoins, il s'est laissé emporter par la vague du banditisme légal qui s'est installé en Haïti depuis une trentaine d'années. Ce n'est pas seulement Michel Martelly. Il y en a eu d'autres avant lui qui étaient président de la République, on ne sait pas comment.
Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la clé et que même il est rentré dans un système...
Il a joué.
Il a perdu. Il a même été accusé, en tout cas, en gros, quand l'argent pétro-caraïbe initié par le Venezuela est arrivé en Haïti, on a commencé à se poser la question de savoir ce qu'il en avait fait lui-même. Il a joué, il a perdu, il avait un pays qui ne fonctionnait plus, qui était gangréné
depuis
de partout par les gangs depuis 3 ans. Il y a eu des enlèvements, il y a eu tout ça. Aujourd'hui, on est en état de siège, c'est ce qui a été décrété. Oui. Honnêtement, Éric Sauret, qu'est-ce qui se passe demain à Haïti ?
Je ne le sais pas. Parce que cet état de siège, je ne pense pas qu'il soit constitutionnel. Je ne pense pas qu'il soit légal. Je m'explique. D'après la Constitution, l'article 149, s'il arrive quelque chose au président, c'est le cas, c'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui assure l'intérim en attendant de nouvelles élections. La seule difficulté, c'est qu'il y a un Premier ministre qui est un Premier ministre par intérim et un autre a été nommé. Autrement dit, il y a déjà un conflit de succession. Cette forme-là ne peut pas prévaloir. La deuxième possibilité, c'est qu'il est dit dans le même article 149, si jamais il y a vacances, et que ça arrive dans la quatrième année du mandat.
Ce qui est le cas.
Ce qui est le cas.
Ça dépend comment on compte.
Exactement. C'est-à-dire, et c'est là où je dis toujours aux citoyens haïtiens, vous faites de la politique, mais à un moment donné, il faut aussi être sérieux. C'est-à-dire que là, il se pose un vrai problème de conflit de règles. Qui doit assurer l'intérim ? Que fait-on ? Ce Premier ministre qui a annoncé la mort du président, ce Premier ministre qui a décrété l'état de siège sous l'autorité du Conseil des ministres, je ne suis pas certain qu'il soit légitime. Et surtout, il va se retrouver en conflit avec un nouveau Premier ministre choisi il y a 2-3 jours par le président Jovenel Moïse et qui serait proche de l'opposition. Autrement dit, la bataille va continuer et c'est toute la tristesse de cette affaire pour Haïti.
Vous restez avec nous, Éric Sauret. Je voudrais qu'on y aille à Haïti justement. Bonsoir, Père Steven. Stone. Vous m'entendez ?
Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci d'être avec nous. On s'est déjà parlé, Père Stevenson, vous et moi, dans Un jour dans le monde. C'était il y a quelques semaines au moment de l'enlèvement par des gangs de 10 hommes et femmes d'église. Il y avait 2 Français à ce moment-là et malheureusement, c'est pour ça qu'on en avait parlé, parce que Dieu sait qu'il y en a eu d'autres avant. Je voudrais que vous nous disiez d'abord à quoi ça ressemble chez vous en ce moment, au moment où on se parle. Est-ce que les choses sont calmes ? Est-ce qu'il y a eu une immense surprise ? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures concrètement ?
Effectivement, Haïti est réveillé ce matin avec un goût très amer à la bouche, avec l'assassinat du président, c'est tout un symbole. Votre invité disait tout à l'heure que Haïti est jalonné de crises, ce qui est tout à fait vrai, parce que c'est un pays qui, dans son histoire, a été marqué par beaucoup de crises politiques, économiques, et à cela s'ajoutent les défis que nous connaissons, les inégalités, la crise de l'environnement et la crise sanitaire. Et ce que je retiens, c'est davantage cette crise anthropologique que je suis témoin, c'est-à-dire une forme de non-respect de la vie, une forme de non-respect du beau, de non-respect du bon. Et donc, c'est quelque chose qui jalonne un petit peu ces derniers mois la vie des Haïtiens. Il y a comme un assassinat du président, mais qui est aussi une forme d'assassinat de tous les Haïtiens, assassinat collectif. La particularité, c'est que cet assassinat est arrivé avec un groupe étranger, et donc là, il y a quelque chose à analyser, mais les autres assassinats, c'est des Haïtiens par les Haïtiens, donc il y a une forme de perte de conscience collective, une forme d'absence de culpabilité dans notre manière de vivre et c'est ce qu'on est réveillé comme ça ce matin avec cette nouvelle et qui nous met dans le flou et dans l'incertitude la plus totale.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez une crainte ici à Port-au-Prince, mais peut-être ailleurs, de ce qui se passera dans les heures ou dans les jours qui viennent ? Est-ce qu'on peut se retrouver face à une espèce de guerre de gang au milieu de cette énorme difficulté politique que nous décrivait Éric Sauret à l'instant ?
Il y a effectivement un problème de qui fait autorité. le problème de la responsabilité à poser. Qui est responsable? Nous sommes dans un contexte où il n'y a pas de parlement, où le président de la Cour de cassation est décédé la semaine dernière, cause Covid-19. Et donc, selon la Constitution, en absence du président, la Constitution amendée, c'est le président de la Cour de cassation qui a décidé. On a deux premiers ministres, un premier ministre, Monsieur Claude Joseph Intérim, et un premier ministre nommé, Ariel Henry, pardon, qui vient d'être nommé et qui n'a pas pu entrer en fonction. Donc, il y a le flou total. Et devant cette incertitude, il y a une peur. J'ai discuté avec quelques amis, quelques hommes politiques ce matin. Il y a le flou. L'opposition essaie tant bien que mal de communiquer, d'envoyer des notes, mais on sent bien qu'il y a un flou total. Et c'est là que je pense qu'il y a un travail à faire, c'est d'analyser le problème véritablement, d'aller à la source des dérives et de comprendre leurs conditions de possibilité. Maintenant, qui va faire ça? Je pense que ce sont les institutions solides qui restent encore dans ce pays. Alors vous allez me demander quelles sont les institutions.
Et vous allez me répondre l'Église, parce que vous me l'avez déjà dit une fois. Est-ce que vous me répondez l'Église là derrière, ou pas, Père Stevenson?
C'est la seule institution qui reste. Non pas parce que je suis catholique, mais c'est parce que c'est la seule institution qui reste organisée, qui il y a un concordat.
Il y a un
accord entre l'Église et l'État pour fonctionner, qui fait qu'on n'est pas dans la laïcité totale où l'Église est séparée de l'État. L'Église a une responsabilité au regard de la société, au regard de son évolution. Et je pense que c'est vraiment l'occasion pour les hommes d'Église d'Haïti, pas que les hommes d'Église, de s'asseoir aujourd'hui et d'analyser les choses en profondeur, de voir vraiment d'aller vraiment à la source de ces dérives, et de créer une forme de conférence nationale pour sortir. Sinon, ça sera l'occupation étrangère.
Merci.
C'est ce qui nous guette aujourd'hui.
Merci, Père Stevenson. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis là-dessus, Éric Sauré. Qu'est-ce qui reste comme institution? Parce que au moment des manifestations, on a entendu les prises de position, effectivement, de l'Église parfois. On a vu des syndicats quand même. Il y a une société civile en Haïti. Tout le monde est exsangue. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a le Covid derrière. Mais ça existe. Est-ce qu'il n'y a que cette institution, l'Église, qui peut mettre tout le monde un peu en rang?
Là-dessus, je salue mon père. Je ne suis pas totalement d'accord avec sa proposition. Effectivement, s'il existe une institution solide en Haïti, on est d'accord là-dessus, c'est l'Église catholique, il n'y a pas de problème. Néanmoins, l'Église catholique d'Haïti nous a donné Jean-Bertrand Aristide. Ouais. L'Église catholique d'Haïti a participé à beaucoup de gouvernements en désignant des personnes, notamment dans les différents conseils qui ont été mis en place pour organiser des élections. Donc là-dessus, j'ai un doute. Néanmoins, elle peut participer, elle doit participer, parce que là, on est vraiment à l'année carrément zéro. Mm-hmm. Parce que voilà, c'est fini. Un État où on peut assassiner le chef, bon, je l'ai déjà dit dans une pièce de théâtre, c'était en 1806, c'est la reproduction de la même chose, de cette manière-là, et assister quasiment un silence de mort des élites d'Haïti, c'est monstrueux. Vous pouvez aller sur Facebook, chercher les bourgeois d'Haïti, chercher les élites d'Haïti, aucune réaction. Or là, notre humanité, c'est cela. Être capable de, je dirais, d'avoir un mot d'empathie par rapport à un homme qui a été assassiné. Donc, l'Église, non, mais l'Église peut participer avec d'autres institutions de la société civile et puis sans doute les personnes de la diaspora qui ont une expertise, une vraie expertise. Néanmoins, je peux vous le dire aujourd'hui, dans la diaspora, ce qu'on a retenu, c'est qu'il est difficile de se dire un jour, je me lève
et je rentre
en Haïti pour aider un pays où n'importe qui,
et qui a été...
peut vous assassiner.
Et un pays que vous diriez, qui a été abandonné de toute façon, de toutes parts, parce que j'entendais le père Stevenson là qui dit l'extrême solution, c'est l'occupation étrangère, il peut rien avoir d'autre.
Là-dessus, la plupart du temps, les citoyens haïtiens disent qu'on a été abandonné par les étrangers. Quand les étrangers s'en mêlent, on dit qu'il ne faut pas d'ingérence. Non. l'Haïti a été abandonnée par les citoyens haïtiens. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas accepté d'endosser Haïti comme étant leur pays. Et dans leur pays, oui, ils ont abandonné le pouvoir, ils ont notamment le pouvoir économique, à d'autres qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'Haïti. Parce que, encore une fois, un commandant étranger ne peut pas arriver dans un État et tuer le président sans une certaine complicité. Et un commandant étranger est d'abord, agit d'abord sur commandant.
La raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est aussi parce que, je me souviens, en 2010, notamment après le séisme, tout le monde est venu, le monde entier est venu vous aider, le monde entier vous dire on vous abandonnera pas, on va reconstruire Haïti avec vous.
Oui, le problème est haïtien, et il faut le dire maintenant. Les haïtiens n'aiment pas le dire, ils aiment bien accuser les étrangers, mais aujourd'hui on va le leur dire. Ça fait 3 ans qu'il y a une crise politique, 3 ans. Et Jovenel Moïse a participé à cette crise parce qu'il n'a pas su négocier. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas su négocier ? Parce que le dialogue n'est pas dans la culture haïtienne. Et cela, il va falloir qu'il l'apprenne, parce qu'on ne résout pas une crise politique par la violence. Là, on est dans le degré zéro de la civilisation.
Vous voyez, ce sera la dernière question, Eric Sauret, vous voyez Haïti qui serait dirigé par, je ne sais pas, des casques bleus de l'ONU ou je ne sais quoi, quelque chose dans ce genre-là,
non.
Le temps que les choses se mettent en place.
Je ne le vois pas, je ne le souhaite pas, ce n'est pas la solution. On a essayé, ça n'a pas marché. En revanche, ce que je vois, c'est une prise de conscience de la part des citoyens haïtiens pour se dire, maintenant, on a assez fait. On a assez mal dirigé notre pays. On prend les choses en main, on fait autrement.
Eh bien, qu'ils vous entendent, Eric Sauret. On aura plaisir à en reparler ensemble dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde avec des agriculteurs de la bande de Gaza qui, après chaque guerre, vous allez les entendre, perdent tout et recommencent tout. Et la bande habituelle du mercredi, sous les radars, Mariam El Kurdi.
Oui, nous irons en Tunisie où la députée Habir Moussi a été frappée au Parlement en pleine séance par un élu proche des islamistes.
Le cinéma en VO est à Cannes avec Corinne Pellissier. Elle nous parlera de Cahier Noir, un docu-fiction israélien dans la série Un Certain Regard. Vous verrez ça tout de suite tout à l'heure. Et puis le monde d'après, bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous. Le bras de fer en cours entre Bruxelles et la Hongrie est révélateur de la fracture Est-Ouest en Europe sur les questions de société.
A tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue, il fait escale au Royaume-Uni. Joy Crooks, Fits Don't Fail On Me, c'est sur France Inter.
Dopamine to wish.
Le bruit du monde ce soir est à Gaza. À Gaza avec ses agriculteurs. Les terres agricoles à Gaza, qui représentent à peu près la moitié de cette toute petite enclave, sont souvent collées à la barrière de séparation avec Israël. Elles sont donc toujours les premières exposées. Les derniers 11 jours de guerre, il y a presque 2 mois, n'ont pas fait exception. Les agriculteurs gazaouis mesurent encore l'étendue des dégâts. Pour beaucoup, la saison est fichue. Il va falloir recommencer à zéro, sans compter les restrictions liées aux exportations à cause du blocus israélien, du passage frontière aussi, qui n'est pas toujours ouvert. Nous sommes à Betlaya, c'est dans le nord de la bande de Gaza. Et le reste, c'est Alice Froussard qui raconte.
Au nord de la bande de Gaza, des plantations de maïs d'un côté de la route, des fraises sous serre de l'autre et une multitude de fermes ça et là. Malgré la chaleur étouffante, Hamada Hamdirder, 35 ans, est dehors. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, tous étaient agriculteurs comme lui qui a repris l'exploitation familiale à Betlaya. Il fait pousser oignons, carottes, pommes de terre, aubergines, tomates, concombres, courgettes. Il se baisse, attrape une pomme de terre dans le sol.
Regarde, elle est brûlée, dû au manque d'eau, à la chaleur et à la guerre.
Hamada pointe du doigt ses panneaux solaires qu'il utilise pour alimenter en eau ses plantations lorsque l'électricité manque dans la bande de Gaza, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Ils ont été complètement bombardés, toujours debout mais troués par les impacts des missiles israéliens.
Ma ferme a été complètement démolie. Et depuis, personne n'est venu m'aider. Personne m'a donné un shekel. Tout le monde vient, tout le monde prend des photos, et après, ils partent. Et personne ne m'a demandé ce dont j'avais besoin. Personne n'a même juste donné un soutien affectif. Ou quelque chose de plus simple, juste pour que je puisse recommencer à travailler.
Au milieu de ces parcelles, un trou énorme causé par une bombe. Ses serres sont en miettes et sa saison agricole est perdue.
Aucune guerre ne passe sans que nous soyons les premiers touchés. C'est la même chose à chaque fois. Même si ce n'est qu'une altercation à la frontière. Chaque fois qu'il est dit qu'il y a des bombardements sur des terrains vides, ce sont en fait des terres agricoles. Dans toutes les guerres qui sont passées, 2000, 2009, 2012, 2014 et 2021, toutes ces guerres, nous, en tant qu'agriculteurs, on est touchés. Mais personne ne s'y intéresse.
Il soupire, rejoint son tracteur, dit qu'il ne sait pas faire autre chose de toute façon. Ici, à Gaza, tous les agriculteurs ont été affectés. Ceux dont la ferme n'a pas été directement bombardée ont perdu leurs légumes à cause du manque d'arrosage pendant les 11 jours de guerre. Certains n'ont juste tout simplement pas pu les récolter. Ils ont pourri sur place. Et vendre à Gaza n'est plus rentable. Les prix du marché ont drastiquement baissé. Tous les agriculteurs, déjà endettés, perdent de l'argent et ne savent pas où en trouver pour payer. La ferme d'Ahmed Hachem Rder, elle, est toujours sur pied. Ce Palestinien d'une cinquantaine d'années produit des concombres et des fraises, l'or rouge de Gaza, qui s'exportait dans toute l'Europe. Mais ça, c'était avant, dit-il.
Nous, agriculteurs, depuis 14 ans, on régresse. Cette situation est terrible. C'est à cause des guerres et du blocus. Depuis 2007, on n'exporte plus nos légumes, comme on le souhaite. Depuis 2 ou 3 années, on ne peut exporter que les fraises ou les tomates. Et seulement une exportation infime, et juste vers la Cisjordanie occupée. Et si ça continue comme ça, s'il n'y a pas d'aide directe aux agriculteurs, dans 5 ou 6 ans, on peut dire au revoir à l'agriculture de Gaza.
À Betlaya, en situation normale, les récoltes sont aussi une source d'emploi pour de nombreux Gazaouis qui viennent travailler dans les champs. Cette année, les agriculteurs précisent qu'ils n'auront pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre ou qu'ils ne pourront tout simplement pas payer, ce qui n'aide pas à réduire le taux de chômage grandissant dans l'enclave côtière sous blocus. À quelques kilomètres de là, au milieu des allées d'orangers et des citronniers, Mahmoud Idriss Ahmad Rder, 62 ans, nous montre les résidus des missiles qu'il a retrouvés dans son champ.
Nous voulons juste venir ici, travailler. Nous sommes des gens pacifiques, nous voulons seulement travailler, survivre. Nous ne sommes pas différents.
Son fils, Majed Rder, 35 ans, vend des engrais et autres pesticides pour les agriculteurs. L'aviation israélienne a ciblé son entrepôt de 15 000 mètres carrés. Le bâtiment a été réduit à l'état de gravat, provoquant en même temps un immense incendie à cause des produits chimiques. Seules quelques fondations en fer restent et presque 2 mois après, l'odeur est encore très forte. partout de la poudre rose, bleue et des sacs entiers de fertilisants.
Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi ils ont bombardé mon entrepôt, alors que tous les produits avaient l'autorisation de l'armée israélienne.
Il a perdu l'équivalent en produits de 22 millions de dollars, une somme énorme qu'il sait qu'il ne récupérera pas et ne sait pas comment il pourra payer ses 300 employés. Pour le moment, le plus important, dit-il, c'est de savoir comment se débarrasser des produits chimiques pour qu'ils ne s'infiltrent pas dans la terre ou dans la nappe phréatique. Sinon, précise-t-il, cela pourrait définitivement sonner la fin de l'agriculture gazaoui.
Alice Troussard, à Beth Laya, dans le nord de la bande de Gaza, avec les agriculteurs. Merci vraiment beaucoup et à très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Avec Mariam Melkurdi. Mariam, vous nous emmenez en Birmanie, principale exportatrice de rubis.
Oui Fabienne, des mineurs avec l'aide des machines que vous entendez creusent et retournent la terre boueuse des gisements de rubis situés dans la célèbre vallée reculée de Mogok dans le centre du pays, que décrit d'ailleurs Joseph Kessel dans son roman La vallée des rubis. Les rubis, vous le savez, sont des pierres précieuses, connues pour leur rouge profond, des pierres symboles d'amour, de richesse pour ceux qui les vendent, espoir d'enrichissement pour ceux qui les cherchent, comme Aymin Toun, mineur birman de 19 ans. J'espère trouver une grosse pierre de très bonne qualité, comme ça j'aurai assez d'argent pour créer mon entreprise, dit-il. Mais le témoignage que vous venez d'entendre, là, date d'il y a 4 ans. Déjà, à l'époque, on soulignait que l'armée contrôlait une grande partie du commerce de rubis. Mais depuis le coup d'État de février dernier, eh bien, la situation s'est empirée. Ce sont les militaires de la junte birmane qui règnent sur la filière. Selon Amnesty International, les pierres précieuses représentent l'une des principales sources de revenus de l'armée, aux côtés du pétrole et du gaz. L'armée en dépend pour financer ses opérations, notamment la répression contre les manifestants pro-démocratie. Alors que font les grands joailliers occidentaux? Plusieurs grandes marques ne se fournissent plus en Birmanie, mais certains joailliers suisses continuent de fermer les yeux, selon le journal suisse Le Temps, sur ces rubis de la honte, des pierres malheureusement sans doute tachées de sang.
Allons maintenant en Tunisie avec des images qui ont beaucoup choqué.
Oui, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias tunisiens, et même internationaux. Une scène invraisemblable en pleine séance plénière au Parlement tunisien est très violente. On y voit d'abord la députée Habir Moussi, chef du principal groupe d'opposition. Le parti destourien libre, le PDL, arborait une tenue de cavalière, casque d'équitation sur la tête, une tenue, dit-elle, pour se protéger des islamistes majoritaires au Parlement. Sur la vidéo, elle critique un accord financier entre la Tunisie et le Qatar. Soudain, un homme se lève, fonce droit sur elle et la frappe. Voilà, vous l'entendez, une scène très violente. L'agresseur, Sabi Smara, est un élu indépendant, proche des islamistes. L'agression révèle le climat délétère dans la classe politique tunisienne. Habir Moussi vient de publier une vidéo sur sa page internet, une vidéo d'une heure. Elle précise qu'elle a été de nouveau agressée par la suite. Elle souligne notamment que le ministère public n'a pas réagi. C'est une catastrophe qui a frappé l'État, dit-il. L'État tunisien bourguibien, qui quelques mois après son indépendance a instauré le code du statut personnel garantissant les droits de la femme en Tunisie. Cette femme qui en 2021 a étudié, occupe des postes à responsabilité, se retrouve cernée par des extrémistes, dit-elle. Et elle se demande pourquoi cet acharnement politique, pourquoi cet acharnement contre la femme. Ce n'est pas la première fois qu'Habir Moussi est attaquée par ses adversaires. Elle incarne en Tunisie l'anti-islamisme et séduit les nostalgiques d'une vie économique meilleure avant la révolution. Les agresseurs n'apprécient pas son franc-parler ni sa popularité qui monte. D'après le magazine britannique The Economist, si l'élection présidentielle tunisienne se tenait aujourd'hui, eh bien l'héritière de l'ancien président Ben Ali arriverait en tête.
Allez, direction les États-Unis pour une toute autre histoire alors.
Fabienne, est-ce que vous reconnaissez cette musique?
Bien sûr.
Composée par John Williams, vous vous souvenez certainement de cette scène magique.
Mais oui.
Du vélo qui, en pleine nuit, vole vers la lune. Le film E.T., bien sûr, de Spielberg, 1982, où un enfant se lie d'amitié avec un extraterrestre et l'aide à rentrer chez lui. Eh bien, les ovnis, Fabienne, et les extraterrestres ont toujours la cote. Un festival vient de leur être consacré aux États-Unis. Dans la ville de Roswell, Nouveau-Mexique, des milliers de visiteurs, des tenues extravagantes, vous l'imaginez, ça va du simple papier d'aluminium sur la tête au déguisement vert de la tête aux pieds, avec ou sans la soucoupe volante autour de la taille. Parmi les participants, Deborah Tucker, visiteuse venue de la planète Oklahoma. Il y a certainement eu des preuves trouvées à un moment donné, mais elles ont été cachées par ce merveilleux gouvernement. Peu importe comment vous voulez l'appeler, une couverture militaire, je pense qu'ils sont là, affirme-t-elle. Ils sont là, on parle bien sûr des extraterrestres. Ce festival fait suite au rapport sorti il y a près de 2 semaines aux États-Unis, vous vous souvenez peut-être, du renseignement américain qui affirme qu'il n'existe pas de preuves d'existence des extraterrestres. Il reconnaît toutefois que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires n'ont pas pu être expliqués. Alors qui sait, Fabienne, s'ils ne sont pas parmi nous?
Mais oui, mais c'est là que ça s'est passé d'ailleurs. Vous savez pourquoi, Roswell? Parce que c'est là que s'est écrasé un ovni et que depuis, les Américains ne le disent à personne. J'ai visité Roswell et les lampadaires sont en forme d'extraterrestres. Voilà, je vous le dis comme ça.
Magnifique.
Si vous y passez. Live long and prosper, Maria Melchiordi. Une référence qui me trahit. C'est pas grave, c'est pas fini. En voici une autre qui me trahit. Voici Seal, qui ne nous rajeunit pas non plus. A change is gonna come, c'est sur France Inter.
And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Somebody keeps telling me don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Yes, sir. So now I go to my and I say, brother, help me please. Back down on my knees. Whoa, there were times I thought I wouldn't last for long. Now I think I'm able to carry on. Change gonna come. Yes, it will. Oh, I know. A change gonna come.
A change is gonna come. Et Seal sur France Inter. Corinne Pellissier, eh bien là, le cinéma en VO, c'est avec elle et c'est à Cannes.
France Inter.
Un jour dans le monde. Et bonsoir, Corinne Pellissier.
Bonsoir Fabienne.
Corinne, vous faites monter les marches au film étranger pour nous dans Un jour dans le monde jusqu'à la fin de la quinzaine. Merci beaucoup. Déjà beaucoup de films, évidemment. Déjà une sélection très alléchante et quelques coups de cœur, à commencer par ce documentaire autour de la comédienne israélienne Ronit Elkabetz, disparue en 2016. Elle avait 51 ans. Vous la connaissez, si vous nous écoutez, vous l'avez vu chez Téchiné, vous l'avez vu dans un film de Fanny Ardant, vous l'avez vu chez Pascal Elbé, chez Amos Gitaï. Son frère, Shlomi, a travaillé à ses côtés pendant plus de 20 ans et il a livré en avant-première un journal intime filmé de leur quotidien qui a déjà fait sensation ce matin, Corinne.
Oh oui, beaucoup d'émotions à l'apparition dès les premières images sur le grand écran du regard magnétique et intense de Ronit Elkabetz, disparu trop tôt, qui entretenait avec la France une histoire d'amour et de cinéma que son frère Shlomi a très bien su restituer dans ce film baptisé Les Cahiers Noirs. Un documentaire assez long, en 2 parties, 3h29, réalisé à partir de souvenirs de leur quotidien à Tel Aviv ou à Paris, de moments volés aussi sur les plateaux de tournage.
Hello. Mommy. אדם כותב את חייו. כל השיחות אתה ניהל, שיחה אחת.
Voilà, des images d'une complicité sans limite, très éclairante à la fois sur le travail, la personnalité de la comédienne qui aimait bien, par exemple, écouter Le Masque et la Plume. Le dimanche soir, il y a une scène très drôle. On la voit découvrir les critiques en 2005 de son film Prendre Femme, premier volet de la trilogie réalisée avec son frère autour d'une femme qui veut divorcer. Des images aussi avec sa mère, qui l'a beaucoup inspirée dans ses films. Et puis l'apparition des premiers signes de la maladie, filmée avec pudeur, sans pathos. Renée Thelkabet, c'était une guerrière et le docteur. Le documentaire de son frère est un très bel hommage.
Pardon Corinne, comme vous êtes loin, que je ne vous vois pas, je ne savais pas que vous aviez fini. Voilà, ça s'appelle Les Cahiers Noirs.
Non, pas du tout, pas tout à fait. En fait, ce qui fait la singularité de ce film, c'est à la fois le nombre d'images accumulées pendant toutes ces années, la puissance créative de ce documentaire, filmé comme un thriller, avec tous les codes du film noir, à commencer par la musique de Bernard Herrmann, qui composait toutes les BO d'Alfred Hitchcock. Un mode de narration aussi emprunté au thriller autour d'un homme qui va tenter pendant 20 ans de sa vie d'échapper à une prophétie macabre. Ce qui est fou ici, c'est la faculté de Shlomi Elkabetz à montrer un film au final qu'il n'a jamais tourné. Il avait des centaines d'heures de rush, plus de 700, de quoi faire 10 films de famille. Au final, eh bien, c'est une œuvre puissante qui mélange la vie, le cinéma et donne à voir l'engagement d'une femme dans une société israélienne patriarcale très marquée par les traditions.
Ce film, c'est 4 ans de travail et 30 ans d'images du quotidien. Ronit en train de se préparer pour aller à une avant-première, Ronit en train de monter des escaliers. Et quand elle nous a quittés, j'ai ressorti toutes ces archives et je me suis dit qu'on avait réussi à recréer.
Avec l'aide de caractère de Viviane Amsalem, Ronit, ma sœur, et ma mère, Myriam, l'image d'une femme qui fait le chemin d'un univers.
Dans tous nos films, on a utilisé ce même personnage féminin très fort pour évoquer des sujets comme la politique, l'émigration, la religion, l'exil, le droit de vivre. Et Ronit a toujours incarné cette femme un peu universelle à l'écran ou derrière la caméra. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle fait partie de celles qui ont compté dans l'histoire de la femme du monde moderne.
Voilà, belle promesse. Les Cahiers Noirs de Shlomi Elkabetz à découvrir très prochainement au cinéma. Corinne Pellissier, je vous remercie beaucoup. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit, à Cannes, bien sûr. Profitez-en bien.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est demain que doit entrer en vigueur en Hongrie la loi très controversée qui interdit la diffusion de contenu sur l'homosexualité auprès des mineurs. La Commission européenne menace aujourd'hui de déclencher une procédure de sanction contre Budapest. Pour vous, cet épisode ne se limite pas à un bras de fer avec Viktor Orban. Il est le révélateur d'un fossé entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne et c'est votre monde d'après.
Ouais, forcément, c'est tentant de montrer du doigt Viktor Orban. C'est un fier à bras, c'est vrai, qui aime à défier Bruxelles. C'est également un xénophobe aux accents antisémites, attentatoire aux libertés, bien décidé à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et il se plaît à instrumentaliser politiquement les sujets sensibles. Hier, les migrants, on s'en souvient, aujourd'hui, les questions de genre. Donc pour toutes ces raisons, il est tentant de le désigner comme le vilain petit canard de l'Europe. Mais c'est un peu facile parce qu'il est plus que cela. En fait, il incarne aussi un courant de pensée. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, 17 pays de l'Union européenne signent une lettre commune pour dénoncer cette loi hongroise qui met dans le même sac l'homosexualité et la pédophilie. 17, ok, c'est la majorité sur un total de 27 membres de l'Union. Mais ça veut dire aussi, il n'y a pas besoin d'être fort en maths, que 10 autres pays, à l'inverse, n'ont pas signé. Qui sont-ils? Alors, on va mettre de côté le Portugal, tenu à un devoir de réserve parce qu'il présidait alors l'Union. Sinon, c'est assez simple, ce sont les pays de l'Est de l'Europe, Pologne, Roumanie, Bulgarie, République tchèque et bien sûr la Slovénie, du très populiste Janez Janša, nouveau président de l'Union depuis le 1er juillet. Seuls les pays baltes de tous les anciens pays de l'Est sous tutelle soviétique ont dénoncé la Hongrie. Conclusion, Orban est loin d'être tout seul.
Donc il y a une vraie ligne de fracture sur ces sujets entre l'Est et l'Ouest de l'Union.
Évidemment, c'est un peu moins caricatural que ça. D'un côté, à l'Ouest, il y a des partis pour soutenir Orban sur ces questions de genre. En gros, l'extrême droite, le Rassemblement National en France, Vox en Espagne, la Ligue en Italie. De l'autre côté, à l'Est, il y a à l'inverse des mouvements libéraux sur les questions de sociétés, en particulier dans les grandes villes, comme la capitale hongroise, Budapest. Mais si on regarde les grands volumes, oui, il y a une ligne de fracture. À l'Est, en Hongrie, toute une partie de la société, dans les campagnes comme dans les bourgeoisies des villes, soutient Orban sur les questions de genre. Et c'est vrai aussi dans une grande partie des pays voisins, d'où d'ailleurs les succès électoraux à répétition du très conservateur PiS en Pologne. Ces populations sont sincèrement persuadées d'incarner les vraies valeurs de l'Europe, en se posant comme des remparts qui protègent une tradition judéo-chrétienne, je cite, sur la famille, où l'homosexualité n'a pas de place. À l'inverse, les sociétés de l'Europe de l'Ouest sont globalement plus libérales et progressistes sur ces questions. Elles voient dans les droits de l'homme un socle fondamental. Il est donc logique de voir les dirigeants de Bruxelles qualifier la nouvelle loi hongroise de honteuse ou de moyenâgeuse. Et il est même tout à leur honneur de ces dirigeants, à l'honneur de ces dirigeants, de se battre sur ces questions de droit et de chercher à sanctionner la Hongrie.
Voilà, sauf que tout le monde appartient à l'Union européenne.
C'est ça le souci, et ce fossé est la traduction d'un malentendu profond sur ce qu'est l'Europe. Les anciens pays de l'Est regardent l'Union d'abord comme un marché commun, ce qu'elle est d'ailleurs, hein, une union commerciale, une zone de libre-échange pour les biens et les personnes, une union monétaire aussi pour la zone euro. La forte opposition, souvenez-vous, là aussi au moment de la crise financière il y a 10 ans, entre le Nord économe, l'Allemagne, les Pays-Bas, et le Sud dépensier, la Grèce et l'Italie, entérinait d'ailleurs cette vision de l'Europe, une histoire d'argent d'abord. Les pays de l'Est voient donc en Bruxelles un moyen d'obtenir de l'aide pour rattraper leur retard économique. Ils y voient aussi un parapluie de protection, c'est important pour leurs identités nationales face à l'ancien tuteur et voisin Moscou. Mais vu de l'ouest du continent, l'Europe, c'est beaucoup plus que cela. C'est un partage de valeurs, hérité des philosophes des Lumières, sur la séparation des pouvoirs, sur les droits humains. C'est la charte européenne des droits fondamentaux. Et par effet en chaîne, c'est l'envie d'une intégration politique plus forte, de l'essor d'une société européenne qui dépasse justement les seules identités nationales. Ces deux visions sont presque incompatibles. Et c'est ainsi que la fracture Est-Ouest sur les questions de société supplante la fracture financière Nord-Sud au sein de l'Union. Si on va au bout du raisonnement, si on considère que les valeurs, l'état de droit sont plus importants que la logique économique du marché, alors des divorces s'imposent au sein de l'Union. Mais mon petit doigt me dit qu'on n'ira pas au bout de ce raisonnement.
Merci beaucoup Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. On se retrouve demain. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne juste avant le journal de 19h avec Hélène Roussel. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien, on revient tout de suite.